Dans les coulisses de Red Bull Bora Hans Grohe, le podcast d'OVB Online sur le Tour de France. Pendant 3 semaines, nous accompagnons le manager de l'équipe, Ralf Denk, et la plus grande et la plus titrée des équipes cyclistes allemandes à travers la Grande Boucle. Vous avez des questions pour Ralf Denk? Envoyez-les à tobias.ruf@ovbmedia.de. Et maintenant, profitez bien de ce nouvel épisode. Tim Merlier gagne aussi à Bergerac et remporte ainsi sa 2e étape sur ce Tour de France. Tadej Pogacar reste en maillot jaune. Red Bull Bora Hans Grohe amène ses leaders à bon port. Nous revenons sur cette 8e journée de course, comme toujours avec le manager de l'équipe Red Bull Bora Hans Grohe. Bonjour donc à Ralf Denk.
Salut et bonjour à Rosenheim.
Ralf, à toi. Comment s'est passée la journée pour vous? Tout le monde est arrivé sans encombre et assez détendu.
Oui, c'était finalement assez détendu pour nous aujourd'hui. Je pensais vraiment, comme je l'ai mentionné hier, que plus d'équipes attaqueraient, mais au final, il n'y avait que 3 coureurs qui ont tenté leur chance en échappée et ils sont allés très très loin. Au moins un, il a presque atteint l'arrivée. Il n'a été rattrapé qu'à la marque d'1,3 km. Mais sinon, pour les coureurs qui se concentrent sur le classement général, c'était une journée calme car le vent de côté nécessaire pour rendre la course un peu plus difficile a manqué.
Oui, tant qu'à faire, regardons cela aujourd'hui. Donc, un groupe de tête de 3 coureurs qui finit par se disloquer. Liam Slok de Lotto a tenté sa chance en solitaire. Était-ce tactiquement imprudent à ce moment-là ou enfin courageux? D'ailleurs, c'est pour revenir à ta critique d'hier sur la passivité de nombreuses équipes, il faut exclure son équipe, Lotto Intermarché. Ils essaient au moins... Comment as-tu perçu le fait qu'ils se disent à ce moment-là, ben ok, je tente le coup, car il n'a pas manqué grand-chose?
Oui, tout d'abord, il faut féliciter l'équipe Intermarché Lotto. Ils sont vraiment présents dans chaque échappée. C'est une équipe très traditionnelle de Belgique et ils comprennent cela, ils prennent cela très au sérieux. Je trouve ça bien, ça rend la course plus attrayante. Et s'ils auraient dû continuer à 3 ou s'ils cherchent son salut seul dans l'échappée, seul lui peut en décider sur place, au cœur de l'action, dans le groupe de tête. S'il se sent assez fort pour aller plus vite seul qu'avec l'aide des 2 autres, alors il doit y aller. Alors, il n'y a pas d'autre option. Mais si les autres en ont encore un peu sous la pédale, il est souvent plus malin de les emmener encore un moment. S'il a le sentiment, et ça se sent dans le groupe de tête, de côté d'être le plus fort, le deuxième ou le moins bon, quand le groupe est composé de 3 coureurs, ça se voit.
Il aura fini par prendre sa décision. Oui, c'est évidemment super, super amer pour lui de se faire rattraper à 1300 mètres de l'arrivée.
Mais pour revenir sur ce que je disais hier, s'ils avaient été 5, 6 ou 7 coureurs, le groupe aurait été plus harmonieux. Chacun aurait moins puisé dans ses forces et ça aurait sûrement suffi pour lui.
Est-ce que les équipes de sprinteurs peuvent vraiment calculer ça avec précision ou y a-t-il une part de risque?
Alors, et si le groupe de tête n'est pas trop grand et que le parcours n'est pas trop difficile en termes de topographie, alors il y a une règle empirique d'une minute par 10 km. Et si on regarde la finale d'aujourd'hui, ça collait plutôt bien, 7 minutes par 10 km dont le peloton a besoin pour rattraper une échappée ou dans ce cas, un échappé qui a roulé toute la journée. Et... il avait encore une minute d'avance à 10 km de l'arrivée et à la fin, ça n'a vraiment pas suffi.
Incroyable. Passons au sprint. Tim Merlier est de loin, je dirais même, le sprinteur le plus rapide de ce tour. Il était pourtant très mal placé et il gagne ça en pleine puissance face au vent, avec une facilité déconcertante. C'était une véritable démonstration de force.
Oui, il faut aussi féliciter l'équipe Soudal Quickstep car ils ont fait le gros du travail de poursuite pendant la course avec l'équipe Alpecin Premier Tech. Et l'équipe a investi, elle a aussi laissé de l'énergie sur la route. C'est-à-dire que, oui, l'équipe n'était plus au complet dans le final. Même le lanceur habituel, Bert van der Berg, avait déjà abandonné. Il a aussi manqué à Tim Merlier. C'est pourquoi il a un peu joué le tout pour le tout au sprint. Il est revenu d'assez loin, mais avec une vitesse impressionnante. Et oui, il est actuellement le meilleur et il a gagné avec brio et mérite.
Exactement. Avant d'aborder le fond, une question générale. Huitième jour du Tour de France. Comment se porte l'équipe sur le plan de la santé? Tout le monde est en forme ou y a-t-il des petits bobos ou des soucis plus sérieux? Quelle est la situation?
Non, tout se passe comme prévu. Tout le monde est en bonne santé et il n'y a aucun petit souci, ce qui est déjà bien après 8 jours de course. Et oui, J'espère que ça va durer.
Exact. Nous avons déjà vu le contraire. Donc, des nouvelles positives chez Red Bull Bora Hansgrohe. Passons au contexte. Parlons aujourd'hui des médias sur le Tour de France. Avant de nous donner des aperçus passionnants, quelques faits. 190 pays diffusent le Tour de France. Le signal international représente 110 heures de retransmission en direct. Les vidéos sur les plateformes officielles atteignent plus d'un milliard de vues. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'autres chiffres impressionnants. Pour faire court, c'est un événement sportif gigantesque qui éclipse bien des choses, et pas seulement dans le cyclisme, n'est-ce pas?
On peut dire que le Tour de France est la machine médiatique du cyclisme. Et c'est un patrimoine mondial, le Tour de France. Il a déjà été organisé plus de 100 fois et tu as déjà cité quelques faits. Je dirais aussi qu'il y a plus de 2000 journalistes accrédités sur place qui veulent évidemment tous faire leur travail aussi bien que possible, ce que je comprends naturellement et que nous respectons en tant qu'équipe. Et nous sommes aussi contents qu'il soit là, car il raconte les histoires. Et si un Remco et un Florian ne s'entendent pas ou se comprennent mal dans le final, pour nous, c'était un détail. En course, c'était un détail, mais on a vu à quel point ça prend de l'ampleur. C'est ça, le Tour de France. Et quand le bus arrive au paddock, le bus de l'équipe, et que moi ou le directeur sportif Patchy Villa, on sort du bus, eh bien, on a souvent 20, 30, 40 micros sous le nez et on nous demande « Que dites-vous de l'incident d'hier ?» Donc, dans l'ensemble, très, très impressionnant le Tour de France. Et c'est un fait aussi que le Tour de France est le plus grand événement sportif annuel récurrent. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Coupe du monde de football et les Jeux olympiques ont une portée médiatique plus grande, mais ils n'ont pas lieu chaque année, seulement tous les 4 ans. Or, le Tour de France a lieu tous les ans. Et c'est aussi impressionnant pour moi quand je me déplace en coulisses et que je vois la quantité de câbles que l'on installe et démonte chaque jour depuis les quarts régies. Nous n'avons pas de stade, c'est un travail colossal de gérer tous les quarts régies, des antennes paraboliques et tout le matériel nécessaire pour offrir une belle image aux téléspectateurs. Tout est monté chaque jour, puis démonté pour être réinstallé le lendemain sur le site suivant. C'est vraiment impressionnant, toute la logistique qu'il y a derrière.
Oui, ça doit représenter des montagnes de câbles, de matériel, et c'est difficile à imaginer. Et rien qu'en y pensant, il faut vraiment l'avoir vu pour le croire, n'est-ce pas?
Oui, c'est encore très, très impressionnant pour moi, même si c'est mon 13e Tour de France. Et oui, j'ai déjà été à Ruhpolding pour le biathlon. Le biathlon, c'est impressionnant aussi ce qu'il y a là-bas, mais ça reste sur place une semaine, alors qu'au cyclisme, tout est transporté chaque jour d'un point A à un point B. C'est ça que je trouve encore plus impressionnant, que ce soit si grand et pourtant si décentralisé, avec un montage et un démontage quotidien.
Le réalisateur français, donc le principal responsable, survole le parcours du Tour plusieurs fois en hélicoptère en amont.
Ce qui s'ajoute à cela, c'est que n'est pas si simple de produire une belle image télévisée du cyclisme. C'est très, très complexe par rapport à un sport qui se déroule dans un stade, car là, vous avez des caméras fixes et maintenant, on utilise aussi des drones. Mais pour amener le cyclisme dans les salons, il faut des hélicoptères, des cadreurs à moto et des avions relais. Il faut énormément d'équipements pour offrir une belle image aux passionnés de cyclisme.
Vous avez imaginé quelque chose de nouveau sur le plan médiatique. Avant d'en parler, une question générale. À quoi ressemble votre travail sur place? Combien de personnes sont impliquées? Est-ce différent de ce qui se fait sur un Giro, une Vuelta ou d'autres courses? Donnez-nous d'abord un aperçu, puis nous regarderons ce nouveau format YouTube.
Oui, nous voulons bien sûr offrir à nos coureurs le meilleur soutien possible. Et c'est pourquoi nous avons deux attachés de presse sur place. L'un s'occupe plutôt de Florian Lipowitz, très sollicité, et l'autre de Remco Evenepoel, tout autant pour qu'ils aient toujours un attaché de presse à leur côté, qui les soutient et qui leur enlève de la pression. Tous les coureurs ne sont pas à l'aise pour parler aux médias et cela doit leur apporter de la sécurité. Ensuite, nous voulons évidemment, et le Tour de France est une grande machine marketing, en parler aussi, car nos partenaires génèrent environ 80% de leur valeur publicitaire annuelle grâce au Tour de France. C'est pourquoi le Tour de France est si important. Nous voulons évidemment exploiter cette plateforme au mieux en tant qu'équipe. C'est pour cela que nous avons des créateurs de contenu, des photographes et des vidéastes. Et tout cela doit bien sûr être monté par la suite. Et nous avons un format YouTube qui dure entre 8 et 10 minutes où, avant l'étape suivante, la veille est diffusée. Que s'est-il passé? Et nous voulons montrer cette image précise que le téléspectateur ne voit pas ce qui se passe dans les coulisses. Quelle est la particularité de notre sport? C'est ce que nous voulons faire découvrir aux passionnés de cyclisme et c'est pourquoi nous avons 6 personnes dédiées au contenu sur place. Alors, ce qu'il y a de formidable dans notre projet, c'est qu'au Red Bull Media House, nous avons aussi des gens qui montent le format quotidien pour nous à Salzbourg. C'est aussi, du point de vue de l'équipe, une énorme machinerie et tous ceux que ça intéresse, pas seulement le podcast, mais aussi d'avoir des images, peuvent jeter un œil à notre format YouTube sur Red Bull Bora Hansgrohe.
Exactement, je m'en doutais. Ce dont nous parlons ici depuis 7 ans, on le retrouve dans des images vraiment superbement réalisées. Est-ce que la série Netflix sur le Tour de France, qui n'existe plus aujourd'hui, a un peu inspiré cette approche en se disant que c'était une direction à prendre, car c'est une première, ce format Inside Tour de France? Allez voir sur la chaîne YouTube de Red Bull, Bora Hansgrohe. Vous pourrez le voir. C'était peut-être ça l'idée, de se dire, hein.
Les saisons de Netflix ont fait beaucoup, beaucoup de bien à tout le sport et à nous en tant qu'équipe. Elles nous ont permis d'expliquer ce sport qui est souvent plus complexe qu'un match de football. Nous avons ainsi généré une grande portée. Nous avons fait grandir notre sport. Pourquoi cela n'existe-t-il plus? Bon, c'était en partie un problème car toutes les équipes ne voyaient pas les choses ainsi. Et pas toutes les équipes n'ont abordé le sujet de Netflix aussi ouvertement que nous chez Red Bull Bora Hansgrohe. Nous avons vraiment apprécié, mais d'autres équipes, elles, se sont montrées un peu plus fermées. Et puis, Netflix a évidemment du mal à créer du contenu dans les coulisses pour raconter les histoires qu'on ne voit pas en direct à la télévision. Et malheureusement, c'est pour ça que la série Netflix n'existe plus. C'est aussi pour ça qu'on a décidé que si Netflix n'était plus là, on ferait notre propre contenu.
Exactement, comme je l'ai dit, la chaîne YouTube de Red Bull Bora Hansgrohe, allez voir, c'est passionnant. Tu as brièvement mentionné les coureurs. Pour certains, c'est facile, pour d'autres, moins. Est-ce que les coureurs reçoivent une formation média?
Oui, nous aidons les pilotes à être professionnels face aux médias, mais aussi à apprendre quand il faut savoir dire non. En gros, oui, les bases, mais comme je disais, certains ont ça dans le sang et pour d'autres, ce n'est pas forcément inné de parler aux médias et certains sont soulagés quand c'est fini, d'autres se disent que ça ne me dérange pas du tout. Mais c'est justement pour ça que les attachés de presse sont là, pour contrôler un peu tout ça. Mais j'attends aussi de mes attachés de presse qu'ils ne filtrent pas trop, car nous voulons faire passer le message. Et si on filtre tout, on se retrouve souvent avec des interviews trop lisses, comme on en voit dans d'autres sports. Mais ça ne c'est pas vraiment mon approche. Ça, je veux faire grandir notre sport. Alors, il faut savoir encaisser et parfois aussi lâcher quelques vérités.
Tu parles à un journaliste sportif qui partage ton avis. Ce n'est pas une évidence, je peux le confirmer. Pour finir, comment cela a-t-il évolué? 13e Tour de France pour toi, si tu repenses au premier et au deuxième Tour de France. C'est clair, l'équipe était aussi plus petite, les attentes différentes. Mais si tu devais dresser un bilan global, comment cette attention médiatique et tout ce qui l'accompagne ont-ils évolué au cours de ces 13 années dont nous parlons?
Oui, le Tour de France était en effet déjà très grand il y a 13 ans. Je pense qu'il n'y a peut-être même plus eu une croissance aussi extrême. Ouais, bien sûr, ils ont aussi augmenté leur portée, mais la machine du Tour de France sur place était similaire il y a 13 ans à ce qu'elle est aujourd'hui. Ce qui a changé en interne dans notre équipe est énorme. Il y a 13 ans, nous avons obtenu une invitation pour la course. Nous étions heureux d'y participer. Nous ne rêvions pas de gagner des étapes ou de viser le top 10. Pourtant, nous avons réussi dès la première année avec une 7e place grâce à Léopold Koenig. C'était un immense succès pour nous en tant qu'équipe invitée. Mais nous y sommes allés sans aucune pression, avec la moitié du personnel, à peu près comme aujourd'hui. C'était beaucoup plus artisanal chez nous, mais le cyclisme lui-même était aussi beaucoup plus artisanal à l'époque. Et ces 13 dernières années, il y a eu une véritable course à l'armement entre les équipes. Les budgets des meilleures équipes. Je compare l'équipe de pointe d'il y a 13 ans avec celle d'aujourd'hui. Ils ont triplé. Quadruplé. Et il y a tout simplement beaucoup, beaucoup plus d'argent en jeu maintenant. Et les équipes se penchent évidemment sur beaucoup, beaucoup plus de détails qu'il y a 13 ans. C'est aussi une raison pour laquelle le cyclisme est si rapide actuellement. Pourquoi ce n'est pas seulement Tadej Pogacar qui bat record sur record dans montagne, mais tout le peloton, comme Florian Lipovitz ou Remco Evenepoel, qui améliorent leurs meilleures performances d'année en année. C'est une raison pour laquelle les équipes investissent autant dans les détails et déploient tant d'efforts.
Exact. Alors, tournons-nous vers demain, revenons au sport. Le départ est à 13h35, l'arrivée est prévue à 17h45. De Malemort, nous irons vers Ussel, dans le Massif central. 185 km seront parcourus, avec 3300 mètres de dénivelé. Une ascension de 4e catégorie, 2 de 3e, 1 de 2e, cela ressemble vraiment, vraiment, vraiment beaucoup à une échappée.
Oui, je l'ai déjà dit hier, je m'attends aujourd'hui à une plus grande échappée qui pourrait peut-être aller au bout, que je n'avais pas tout à fait tort. Liam a failli réussir, mais finalement non, et pour demain, je me prononce assez clairement. Alors, je dirais 80% de chance qu'une échappée aille au bout demain. Et oui, nous allons aussi parler avec nos coureurs aujourd'hui qui se sent bien, qui est motivé pour demain. Je ne pense pas que ce sera une journée où il y aura des changements dans le top 10, donc où les coureurs, ceux qui se battent pour le top 10, ne vont pas s'attaquer demain, mais un rouleur grimpeur a, je pense, comme de bonnes chances de gagner l'étape. Et j'espère que ce soir, beaucoup de bras se lèveront chez nous, ceux qui veulent tenter quelque chose demain.
Oui, mais est-ce qu'on peut, enfin, dans des circonstances normales, je signerai ça à 100%, mais je ne fais pas confiance à Pogacar. Avec lui, on doit toujours être sur ses gardes, même si sur le papier tout est différent. Mais s'il en a envie, je n'exclus rien avec lui. Tu vois ce que je veux dire?
Non, c'est un gagnant à 100% avec la bonne attitude et le bon mental, mais aussi avec les bonnes jambes. Il veut toujours gagner, oui, mais il veut aussi gagner le Tour de France. Et pour un tel dominateur, c'est un exercice d'équilibriste, car chaque fois qu'il veut gagner l'étape, il doit aller à la limite. Cela affaiblit aussi le système immunitaire. Tout peut arriver, on peut aussi chuter. Je ne sais pas s'il va vraiment à la limite à chaque étape et s'il prend tous les risques. Pour le sport, c'est bien sûr positif. C'est plutôt un fonceur, ce que je trouve assez génial, mais je ne pense pas que ce sera pour demain. Je parie plutôt sur les échappées.
Qu'est-ce que ça change que lundi soit une journée de repos? Pour parler franchement, est-ce qu'il y en a qui se disent « Allez, je donne tout aujourd'hui parce que je me repose lundi » ou est-ce que ça n'a aucune importance?
Non, les coureurs qui sont, disons, les candidats à la victoire demain, ces rouleurs à l'aise en montagne, quand il s'agira de gagner l'étape, ils seront tous dans le rouge. Bien sûr, ils attendent le jour de repos, mais on ne calcule pas vraiment ça au départ.
Quand il s'agit de gagner une étape, peu importe qu'il y ait un jour de repos le lendemain, on se donne à fond, hein?
On verra demain qui a atteint cette zone rouge si les coureurs de Red Bull, Bora Hansgrohe, ont levé les bras. Ils sont en forme. Tu nous as encore bien éclairés aujourd'hui. Merci beaucoup pour ça. Bonne soirée. Et on se retrouve demain après la 9e étape. Merci, Ralph.
Avec grand plaisir et salutations à Rosenheim.
C'était l'édition actuelle de Inside Red Bull Bora Hansgrohe, le podcast d'OVB Online sur le Tour de France. Vous trouverez le podcast sur toutes les plateformes d'écoute habituelles et sur les sites d'OVB Media et Deepen Media. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine émission.